Donc, quelques points de vue de l'Église que vous avez évoqués, certes, mais qui vont peut-être apporter aussi un peu une synthèse à ce que vous avez dit entre vous. Donc, l'Église est une maison, une famille, et ça c'est ressorti très clairement chez vous. Une maison, si vous prenez le dictionnaire, c'est aussi, en dehors du fait qu'elle abrite physiquement, c'est aussi une lignée familiale. C'est un ensemble d'individus qui sont dans le cadre d'une lignée familiale, ce qui appelle d'ailleurs une dynastie. Donc c'est aussi l'aspect de la famille en tant qu'Église. Et donc là, on peut rentrer bien sûr plus en détail. C'est un miracle, ça aussi vous l'avez souligné, hein, un miracle. Un miracle au sens de signe. Pas au sens de, voilà, vous savez, si nous on était un miracle permanent, voilà, les gens pourraient même plus nous regarder tellement on rayonnerait comme Moïse, ce serait super, quoi. Mais non, c'est un signe, c'est-à-dire ça renvoie vers le royaume de Dieu, et c'est pour ça que ça demande un effort pour nous de correspondre aux valeurs de l'évangile du royaume pour que nous soyons ce signe. C'est une société paradoxal, c'est-à-dire dans cette société, il se trouve des choses complètement contraires, comme le fait d'être parfait en Christ et d'être imparfait dans notre chair, le fait que l'Église est universelle et en même temps locale, qu'il n'y a qu'une seule Église, depuis de tous les siècles, il n'y en a qu'une, et alors que, en fait, à chaque fois, elle est remplie de gens qui sont mortels, etc. etc. Donc, on peut rajouter ça, c'est une société paradoxale. C'est une ambassade, c'est-à-dire qu'elle se trouve, l'Église se trouve dans le monde, mais n'est pas du monde, et elle doit apporter le royaume de ce royaume de Dieu dans le monde. Voyez, donc cette notion d'ambassade est aussi quelque chose qui peut développer pour bien comprendre ce que c'est que l'Église. C'est une bergerie, là j'insiste pas, hein, où les moutons entendent la voix du berger, le berger il prend soin de ses moutons, de ses brebis, etc. Voilà. Toute cette notion de bergerie est très présente bien sûr dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est une personne morale aussi, hein, je le rappelle, c'est-à-dire que c'est une personne juridique. Une personne juridique, c'est qu'il y a des droits et des devoirs. Hein. Quand on est membre d'une église, on a des droits, mais aussi des devoirs. Voilà. Et souvent, on oublie un petit peu les devoirs, et il faut les rappeler, etc. etc. Voilà. Donc, on peut rajouter, bien sûr, des choses à cela. L'église et ses visions. Alors, il y a plusieurs visions. Vous voyez, quand on parle de vision, vous allez écrire une vision, mais il y en a plusieurs. Alors, je voulais juste dire que dans Proverbes, c'est ce verset qui est souvent cité, chapitre 29, verset 18, qui dit « Sans vision, le peuple périt ». Alors, c'est une façon de traduire, il y en a une autre, qui dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision, un peuple vit dans le désordre », c'est-à-dire le relâchement ou l'absence de sens, hein, voilà, le chaos. La vision, quelle que soit la vision qu'on a, elle est absolument nécessaire pour que le peuple qui est voilà, les membres de l'Église, eh bien, ne partent pas à la dérive. Donc c'est important. Ensuite, pourquoi l'Église a-t-elle besoin de vision? On vient d'en parler en partie, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas un enseignement que je fais, c'est un rappel de ce que vous savez déjà. Et de quelle vision parle-t-on? Il y a plusieurs visions. Alors, je vais juste égrener deux, trois visions. La première, c'est ce qu'on appelle la vision du monde. Paradigme, très souvent, vous entendez ce mot, ça veut dire exemple en grec, paradigme. C'est un patron, voilà, une façon de voir les choses. On a tous des visions du monde. C'est-à-dire qu'on interprète la réalité visible et invisible d'une certaine manière. La Bible, bien sûr, nous aide à définir un peu mieux cette vision du monde. Et en fonction de cette vision du monde que nous avons tous, eh bien, nous interprétons ce que nous voyons. Tout ce qu'on voit, c'est interprété. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde dit ouais, tous les médias, c'est du mensonge, machin, etc. C'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est interprété. Par exemple, si vous prenez un journal Le Monde, si vous prenez un journal communiste, si vous prenez un journal, voilà, c'est interprété, c'est tout. Il ne faut pas uniquement parler de mensonges. Bien sûr, il y a des mensonges grossiers qui disent l'inverse de ce qui existe, ça c'est autre chose. Mais je parle d'interpréter, c'est forcément passer par une vision. Et cette vision peut s'affiner. et peut s'affiner au fur et à mesure de nos expériences. Moi, ma vision du monde, elle est différente de ce qu'elle était il y a 40 ans, quand j'étais étudiant. Ne serait-ce que par mon expérience pastorale, par tout un tas de choses, la réalité que j'ai vue prend une autre dimension d'interprétation. Sans interprétation, il n'existe pas d'explication. On explique par l'interprétation. Donc ça, c'est la vision du monde. Ensuite, il y a la vision de l'organisation. Comment on est organisé. Vous savez, organisation vient de organe, vient d'organisme vivant, voilà. Et l'Église, si on la représente comme une maison, comme une famille, il est dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15 que l'Église est appelée la maison de Dieu ou la famille de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez que la vérité est importante. On insiste beaucoup sur l'amour. C'est important l'amour. Il n'y a pas que l'amour. On ne peut pas tout réduire à l'amour. Un christianisme, ce n'est pas que l'amour. Pourquoi Jésus est mort à la croix ? C'est parce qu'il a été jugé par Dieu, parce qu'il est devenu péché. Donc la justice est au même niveau que l'amour. Bien sûr, l'amour, c'est ce qui va demeurer. Ce qui va demeurer dans l'éternité, c'est évident. Dieu est amour. Mais la justice est importante et tout plein de choses importantes, la compassion, ce que Jésus a manifesté en tant que... Voilà, ce que Michel vous a proposé de lire pour revoir comment il était, son caractère, etc. Voilà, donc notre organisation en tant que famille, eh bien, c'est aussi une vision... Une vision importante. Et on en reparlera à l'Assemblée générale extraordinaire en février pour adopter une nouvelle édition de cette organisation. Parce que la dernière remonte à Foursquare. Depuis, on est à RNC. Donc, vous voyez, des choses qui sont un peu à mettre à jour. Et donc, on verra ça à la prochaine Assemblée générale pour passer à l'édition 5. Donc, déjà, on est déjà à l'édition 5 de notre organisation. Vous voyez, ce n'est pas figé. Ça peut bouger en fonction de certains critères de raisonnement. Alors, la vision, ce qu'on appelle la vision de l'EPEA, celle que vous êtes amené à écrire, eh bien, c'est la manière dont nous envisageons ensemble les choses pour agir, pour construire notre avenir. Et c'est ça, la vision. Donc, c'est un autre point de vue, c'est une autre façon. Il faut à chaque fois préciser quel est notre point de vue, notre vision. Donc ça, c'est la vision, comment agir ensemble. C'est très important parce qu'on peut agir soi-même. Et là, on a notre vision paradigme. Vous avez, vous, votre vision, façon d'expliquer, que ce soit politique, que ce soit économique, etc. Voilà, vous agissez en fonction de ça. En fonction, vous êtes responsable de ça, de votre vie, d'éducation, économie, etc. Mais moi, personnellement, en tant que pasteur principal, je suis responsable de la manière dont nous agissons, nous, ensemble. C'est un corps. Un corps local. Et donc, on s'appuie sur une vision. Et cette vision doit être claire et partagée et commune. Voilà. C'est pour ça que vous la réécrivez et que celle que nous, on a écrite, que moi, j'ai écrit en son temps avec les anciens il y a 30 ans maintenant, dans les années 90, c'est revisité en 98, eh bien, celle-là, si on vous l'enseigne, on voit la forme, ça passe un peu au-dessus de la tête parce que vous ne l'avez pas écrite. Donc le fait de l'écrire, et David Audouzon a eu une excellente idée, de la faire réécrire, même si c'est plus ou moins la même, parce qu'en fait, une vision d'église, il n'y en a pas 36 000 non plus. Mais voilà, ce serait vous qui vous l'appropriez pour construire l'avenir ensemble. Donc elle existe, mais vous allez la réécrire pour mieux l'approprier. Alors il y a une métaphore, une image. Donc, tout à l'heure, on a vu l'image de la maison. L'image qui est la mieux appropriée pour la vision, c'est celle du bateau à voile. Du bateau à voile. En ce moment, il y a le Vendée Globe. C'est un peu ça. C'est ça qui exprime le mieux cela. En partant de l'histoire de Jésus qui va dans la barque avec ses disciples. Et quand il va dans la barque, donc il est bien sûr d'un côté du lac, il dit « Allons de l'autre bord ». Voilà, il rentre dans la barque avec les disciples qui sont là. Il se met à dormir dans la barque et voilà qu'une tempête se lève. Et c'est la panique à bord. c'est la panique à bord. Vous voyez, donc c'est l'expression d'une église, mettons une église locale, voilà, qui démarre d'un point A, qui va vers un point B, de l'autre côté. Dieu dit allons de l'autre bord, enfin Jésus dit allons de l'autre bord, on y va, et puis il y a une tempête. Alors nous, on a connu des tempêtes dans l'Église. Hein. Vous en connaîtrez d'autres, hein, parce qu'il y a toujours des tempêtes. Vous savez. Ce qui est étonnant, c'est que jeudi, quand on a eu la rencontre avec toutes les églises du Montois, là, on commence à être bien au top au niveau technique. Et merci à tous les techniciens qui ont fait beaucoup d'efforts. Vous voyez, là, je ne suis plus du tout stressé, tout marche bien, c'est super. Imaginez que tout marchait bien jeudi. Et d'un seul coup, plus d'Internet, plus rien, plus moyen de communiquer. Alors panique, Jérôme, qui est très rapide comme une gazelle, il descend, il monte, il met le serveur en route, tout ça, enfin rien à faire. Bon. Heureusement, mon fils Samuel, il avait un truc de 4G avec le satellite, paf, il s'est branché, vous avez vécu des coupures, mais bon, pas trop, parce qu'ils ont trouvé un moyen alternatif, ce qui sera pas le cas, enfin ce sera difficile avec YouTube, mais avec Zoom, c'était possible. Eh bien, imaginez qu'Olivier a découvert le lendemain que pendant cette période-là, sur les Yvelines uniquement, et uniquement free, eh bien les serveurs ont explosé, il n'y a plus d'Internet. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Bon. Et donc on a des tempêtes, on a des difficultés. Bon, heureusement, les techniciens ont réussi à contourner la difficulté. Mais bon, je n'induis rien, c'est peut-être l'ennemi, c'est peut-être pas l'ennemi. En tout cas, l'ennemi est toujours là, hein, pour nous contrecarrer. Et donc, dans notre vie d'église, il y aura, comme dans notre vie personnelle, et il faudra faire face. Il faudra faire face. Et voilà. Et quand on fait face, on apprend des choses. Ce jour-là, les disciples ont appris de Jésus en disant, mais gens de peu de foi. Ah, on découvre qu'ils avaient peu de foi. Quoi ? Peu de foi ? Mais oui, bien sûr. Regardez, tempête, tu t'arrêtes, et ça s'est arrêté. Voilà, juste un mot de Jésus. Vous voyez, c'était simple. C'était simple. Pourtant, c'était des pêcheurs. Alors, je m'adresse à Yves. Yves, tu as connu des tempêtes sur la mer ? Ah ben voilà, on n'est pas très fiers. Hein ? On a le moral dans les chaussettes, là. Voilà. Donc là, on a le moral dans les chaussettes. Eh ben, vous voyez, il dit, ben, vous n'avez pas la foi. Et justement, la foi, c'est quand tout va mal qu'on a la foi. Parce que la foi, quand tout va bien, ben oui, Seigneur, voilà, le salaire, il rentre, tout est bien, voilà, c'est super. Bon, j'ai la foi, quoi. Mais quand ça va mal, c'est là qu'il faut vraiment continuer à avoir la foi. Hein ? Et Michel et moi, on était éprouvés dans cette église. Avoir la foi. Et il y a des témoins ici qui savent ce qui s'est passé. Eh ben, c'est là que le Seigneur a agi. Pourquoi ? Parce qu'on a regardé à notre appel. On a regardé à notre point de départ. On n'a pas regardé à la fin, parce que vous voyez, la fin, vous dites, c'est la fin, c'est au fond de l'eau. Quoi. C'est peut-être le requin qui va nous attendre. C'est ça la fin. Quoi. Il est sombre. Mais tant qu'on regarde au départ, le Seigneur a dit, allons de l'autre bord. Ben, si c'est Jésus qui l'a dit, est-ce que vous croyez qu'on arrivera de l'autre bord ? Qu'est-ce qui croit que si Jésus dit « allons de l'autre bord », on arrive à l'autre bord ? C'est ça la foi. Donc vous avez la foi. Mais vous ne regardez pas au port qui est là-bas, parce que là vous voyez les poissons, vous voyez les requins, les machins et tout ça. Mais si vous regardez ce que Jésus a dit, eh bien là, vous arriverez de l'autre bord. Voyez. C'est ça la foi. Donc la vision, c'est ça. Une autre façon, alors donc vous voyez, il y a le souffle du Saint-Esprit qui aide les voiliers, parce que vous voyez, en ce moment, quand ils sont dans un anticyclone, ça avance pas beaucoup. Donc ils attendent le vent pour repartir. Donc le Saint-Esprit, parfois, c'est ce qu'on appelle un réveil, il y a un vent, et on va beaucoup plus vite que quand on n'a pas de vent. Donc il y a ça, mais en face, il y a aussi un souffle contraire, voilà, donc il faut faire avec tout ça. Et ce qui résume aussi un petit peu ça, c'est Philippiens 2, 12 et 13. Et je me rappelle quand j'ai rencontré Michel, qu'on s'est fiancé, bon, ça monte en 1970, hein, donc faites le calcul, à Paris. Ce verset m'a toujours intrigué, Philippiens 2, 12 et 13. Travaillez à votre salut. Attends, travailler à votre salut, c'est pas tout à fait la grâce. Travailler à votre salut. C'est catholique, ça. Moi, je suis d'origine catholique, vous voyez, ça mérissait en disant, attends, on travaille, on notre salut, et ça veut dire ça. Et il y a le petit, alors en grammaire, je suis nul, car, c'est quoi un car? C'est une conjonction de coordination, hein. Ah, je suis tombé, alors là, c'est vraiment le hasard. Une conjonction de coordination, car. Dites tous car. Voilà. Quand vous rencontrez des choses comme ça en lisant, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant, quelque chose après. Car, c'est quoi? C'est Dieu qui met en vous le... Voilà. Donc, qui est-ce qui vous fait arriver de l'autre côté? C'est Dieu. Même si vous déployez la volonté de le faire, mais c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle se confier en Dieu, en sa grâce, en son esprit. Mais ça nous est demandé de travailler. On est dans un paradoxe. Parler tout à l'heure d'église paradoxale, encore un paradoxe. Donc voilà, cette vision, c'est, et ça c'est la mission, travailler à votre salut, c'est la mission. Et donc il y a l'appel, il y a la mission, et puis il y a les points de visée qui sont bien sûr le point d'aboutissement où Jésus va nous emmener. Mais nous n'arriverons jamais à la vision, au point de visée, si le Seigneur ne vient pas à notre secours, et si nous ne confions pas en lui, et si nous ne faisons pas notre mission. Et une des missions, c'est d'exercer la foi. Alors, voilà, est-ce que la vision est un objectif de résultat? Non, ce n'est pas un objectif de résultat. Dieu ne nous demande pas d'aboutir à des résultats, okay? C'est lui qui va les faire, les résultats. Ça, c'est propre à une entreprise humaine qui travaille avec ses propres forces pour atteindre son rêve. Donc, quand vous voyez dans une expression de vision « rêve », hop, il y a un clignotant qui doit s'afficher. C'est pas notre façon de voir. C'est peut-être la façon. Il y a beaucoup d'églises, hein, je ne citerai pas, d'églises qui mettent rêve à la place de vision. Vous ne trouverez jamais ça à l'église de PEA. C'est pas du rêve. C'est une réalité qui se produit lorsqu'on est dans l'appel. Donc c'est pas conforme à la vision biblique, ce genre de vision. Par exemple, fixer un quota de membres, fixer un résultat financier, fixer un résultat dans l'évangélisation, tout ça, vous voyez, c'est des objectifs de résultats. Non, notre vision, c'est un objectif de moyens. Ça veut dire quoi, un objectif de moyens? Eh bien, c'est que Dieu nous demande de mettre en place des moyens. Ça s'appelle la mission, être missionné. Être missionné, être en mission. Et un des éléments de la mission, c'est d'adorer. Adorer Dieu. Non pas adorer les idoles, adorer Dieu. Donc l'adoration, aimer le Seigneur de tout notre cœur, est le mot-clé. Dans Éphésiens 1:12, il dit, définition de l'adoration, c'est célébrer sa gloire. C'est pour ça que nous avons mis en place les Moving Glad, que j'espère pourra reprendre très bientôt, hein, qui est de célébrer Dieu, célébrer sa louange, célébrer sa gloire. Amen. Et l'adoration vient toujours avant le service, parce que nous devons être des adorateurs. Ensuite, servir, aimer son prochain comme soi-même, servir. Vous êtes des serviteurs, Jésus l'a dit à ses disciples, et en particulier à ses leaders. Hein. Être au service, va bon et fidèle serviteur, dira Jésus, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que nous sommes des serviteurs? Non pas des égoïstes, non pas des gens narcissiques qui regardent leur nombril, mais regardent à servir l'autre. Et en servant, bah, la personne nous sert aussi. Et donc notre ego va être aussi satisfait, mais ce n'est pas dans notre volonté. C'est quand l'autre le permet et quand le Seigneur le permet. Vous voyez, c'est cet amour réciproque. Évangéliser. C'est un des éléments de notre mission, et merci pour Bila qui nous a encouragé à cela, et aussi pour Michel qui est au milieu de nous, qui va reprendre la distribution des petits bleus. Le mot évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle de Jésus. Aller vers ceux qui sont autour de nous pour pouvoir leur apporter la parole. Nous sommes aidés à accomplir cette mission avec l'aide du Saint-Esprit. Là aussi, il vient à notre secours. Il met en nous le vouloir et le faire. Ensuite, croître. La croissance est importante. Un chrétien qui ne grandit pas, c'est pas normal. C'est pas normal parce que quand on vient dans ce monde, c'est la nouvelle naissance, on est un bébé. On est un bébé spirituel. Moi, quand je me suis converti en 1967, quand il y a eu la guerre des six jours en Israël, c'est pour ça que ça me marque, en 1967, j'étais un bébé spirituel. Aujourd'hui, j'ai appris des choses que je ne savais pas du tout, qui existaient. Parce qu'à l'époque où j'étais là, il y avait des Alfred Kuhn, il y avait tous ces gens desquels j'ai appris, qui savaient ce que je sais maintenant, mais eux, ils le savaient. Mais c'est parce que j'ai pu croître dans la grâce, j'ai pu persévérer dans l'enseignement des apôtres. Le mot-clé est formation. N'arrêtez jamais la formation, je vous en prie. Si vous arrêtez la formation, vous êtes mort. Non seulement vous stagnez, mais vous régressez. Soyez des hommes et des femmes, des chrétiens qui aient envie de formation. Et on vous en propose des formations. Je vais reprendre la formation sur la théologie de l'âme. Voilà, c'est à vous de répondre, hein, si vous vous intéressez au royaume de Dieu ou pas. Parce que pour moi, on ne fait pas mieux dans la matière. Maintenant, si vous croyez le contraire, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais venez vous former. L'Église est là pour vous former. C'est une école de formation. Voilà. Donc la formation, la croissance est importante. Et admettre et exclure, ça fait partie aussi de l'Église. Admettre et exclure. Admettre par le baptême, y exclure par ceux qui doivent être mis en discipline pour se repentir. L'exclusion, c'est pas une damnation. C'est simplement une aide pour que la personne puisse reprendre ses esprits, hein, sortir du déni et revenir à la raison dans la parole. Voilà. Alors la vision de l'EPA, c'est une vision sur la manière de construire notre action commune. Ils étaient tous d'un commun accord. Ah, tout le monde dit ça. Ah, tous les chrétiens disent tous d'un commun accord. Mais comment ils ont fait? Par une vision commune. Une vision. Parce qu'ils avaient une vision commune. Et c'est ça que nous voulons faire prochainement, acte 1.14. Elle est fondée sur trois choses, cette vision commune, qui sont indivisibles, de la même manière que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont indivisibles, ils sont un. Ces trois choses sont un, l'appel, c'est de regarder là où Dieu nous a envoyés pour aller de l'autre bord, hein. C'est la mission, c'est ce que nous devons à faire, même si c'est difficile ou facile. C'est ce que nous devons faire, travailler à votre salut. Et c'est le devenir, là où nous allons. C'est les points de visée. Ça peut être plusieurs points de visée. Aujourd'hui, il y en a 5. Vous pouvez peut-être en faire 10, peu importe. De toute façon, ce n'est pas des points de résultat. C'est des points de visée. Donc, on les atteint, on ne les atteint pas. On n'est pas sanctionné pour ne pas les atteindre. Vous voyez, on n'est pas dans une entreprise où on est payé au résultat. Et il n'y a pas de prime chez nous pour les cadres, hein, dirigeants, avec des bonus et puis tout ce que vous voulez, comment ça s'appelle, là, les trucs que vous pouvez mettre à la bourse, là. Voilà, les actions, etc. Non, on est là pour servir. On n'est pas là pour engranger de l'argent. Donc la vision action de l'EPEA, c'est 1. Suivre une direction avec un cap que Dieu nous a indiqué selon notre appel. Ça peut être un appel différent selon les églises. C'est fixer des objectifs de moyens conforme à notre mission, c'est fixer les points de visée permettant de manière régulière de faire des bilans pour garder le cap. Vous savez, ceux qui font le Vendée Globe, hein, ils sont obligés à chaque fois, en fonction des vents, etc., de remettre le cap sur... Où est-ce qu'ils arrivent? Au Sable d'Olonne, je crois. Et décider chaque année de nouveaux plans d'action. On ne change pas l'appel et la mission tous les ans, mais par contre, les plans d'action qui vont constituer notre travail commun. C'est un travail commun. À partir des choses qui sont fixes, on crée une dynamique de plan d'action. Et cette année, on a déjà un plan d'action. Voilà, donc la suite des travaux dans lesquels le Garvey va conduire, c'est 1. Réécrire l'être, l'appel et les points de vision, le faire, la mission, et refaire une vidéo et des flyers adaptés à votre manière de communiquer cette vision dans les 20-30 ans qui sont devant nous, devant cette église. Que deviennent les amis d'André, puisqu'il y a aussi cet aspect du paradigme qui j'utilise pour conduire cette église. Eh bien, c'est préparer une nouvelle université d'été 2021, donc vers le mois d'août, pour valider le contenu des paragraphes que je vais écrire. Je suis en train d'écrire, des supports de communication, des lieux de partage, voilà, de la vision paradigme. Non, c'est pas la même chose, vision paradigme et vision d'église dont on vient de parler. Voilà, c'était pour rafraîchir un petit peu les choses, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté ni de confusion dans ce qu'on va faire.